Bonjour, je suis Olivier, bienvenue dans le podcast de Nightmare Tree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. La fabrique du mensonge est une enquête de journalisme scientifique dans laquelle Stéphane Foucart examine les stratégies par lesquelles des intérêts industriels influencent la production, l'interprétation et la circulation des savoirs. Journaliste au Monde spécialisé dans les questions environnementales, l'auteur ne conteste pas la méthode scientifique en elle-même. Il montre plutôt comment ses exigences légitimes de prudence, de débat et de vérification peuvent être détournées afin de retarder la reconnaissance de risques sanitaires ou écologiques. Publié initialement en 2013 puis repris en format folio, le livre met en regard plusieurs controverses majeures, notamment le tabac, l'amiante, le dérèglement climatique, les insecticides, le bisphénol A et les OGM. Son objectif est de décrire l'architecture de l'influence financement orientée de la recherche, mobilisation d'experts liés aux entreprises, communication médiatique et pression sur les institutions. Foucart analyse ainsi les conditions dans lesquelles le doute cesse d'être un moteur de connaissance pour devenir un instrument de blocage politique. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, la production organisée du doute comme stratégie de retard réglementaire. Le cœur du livre réside dans une distinction décisive entre le doute scientifique normal et le doute fabriqué. Dans la recherche, l'incertitude signale les limites des données disponibles et ouvre un travail collectif de vérification. Dans les stratégies décrites par Foucart, elle est au contraire prolongée, amplifiée ou mise en scène pour empêcher que des connaissances déjà suffisamment solides conduisent à des décisions publiques. Le modèle historique est celui de l'industrie du tabac face au lien entre cigarettes et cancer du poumon. Il ne s'agissait pas nécessairement de prouver une innocuité du produit, mais de multiplier les hypothèses concurrentes, de souligner toute lacune et de réclamer sans cesse des preuves plus définitives. Cette tactique déplace la discussion au lieu de se demander si un risque justifie une protection. Le débat se focalise sur une certitude absolue rarement atteignable dans les sciences de la santé ou de l'environnement. L'enjeu est donc temporel. Gagner des années de controverse permet de préserver des marchés, de différer des interdictions ou de limiter des normes. Le livre montre que cette logique peut se reproduire dans des secteurs très différents dès lors que des résultats scientifiques menacent un modèle économique. La controverse publique devient alors une ressource stratégique plutôt qu'un simple désaccord intellectuel. Deuxièmement, le financement de la recherche et la sélection des questions légitimes. Foucart insiste sur une forme d'influence moins visible que la falsification directe, le pouvoir de choisir les questions auxquelles la science consacrera ses moyens. Le financement industriel peut soutenir des travaux techniquement sérieux, tout en orientant l'attention vers des explications compatibles avec les intérêts du financeur. Dans le cas du tabac, les recherches portant sur des prédispositions individuelles, des facteurs génétiques ou d'autres expositions ont pu être valorisées de façon à relativiser le rôle causal du produit. Le problème analytique ne tient donc pas au fait que toute étude financée par une entreprise serait invalide. Il tient aux effets cumulatifs de programmes qui déterminent quels sujets sont prioritaires, quelles méthodes sont privilégiées et quels résultats sont activement promus. Cette orientation peut produire un paysage scientifique déséquilibré, où certaines causes environnementales restent sous-étudiées tandis que des causes alternatives reçoivent une visibilité disproportionnée. Le livre invite ainsi à examiner les conflits d'intérêts au-delà de la signature d'un article. Il faut considérer l'agenda de recherche, les institutions intermédiaires, les critères de sélection et les usages ultérieurs des résultats. Cette approche éclaire comment une influence économique peut agir en amont de la communication publique, dans la définition même de ce qui paraît digne d'être étudié. Troisièmement, experts, médias et institutions, les relais d'une controverse utile. L'enquête décrit une chaîne d'intermédiaires par laquelle des intérêts privés peuvent acquérir l'apparence de la neutralité scientifique. Des experts, des organismes professionnels, des conférences ou des structures de communication peuvent donner une légitimité publique à des arguments conçus pour protéger une activité industrielle. Foucart souligne notamment l'usage de travaux biaisés, de porte-paroles présentés comme indépendants et de mise en scène médiatique de controverses. Ces mécanismes ne reposent pas toujours sur une invention manifeste, ils peuvent consister à choisir les données les plus favorables, à marginaliser des résultats gênants ou à présenter deux positions comme équivalentes malgré un déséquilibre important des preuves. Les médias jouent ici un rôle délicat. La recherche du débat et de la symétrie peut transformer un consensus scientifique robuste en affrontement apparemment indécis. Les responsables politiques reçoivent alors l'image d'un dossier prématuré ou conflictuel, ce qui facilite l'inaction. Le livre ne réduit pas ce phénomène à une simple manipulation de journalistes ou de chercheurs. Il analyse une configuration où les règles ordinaires de visibilité, de réputation et de controverse peuvent être exploitées. Son apport est de rappeler que l'indépendance de l'expertise dépend autant des procédures de transparence et de pluralité que de la compétence individuelle des scientifiques. Quatrièmement, du tabac au climat, des cas distincts réunis par des procédés récurrents. La force comparative de la fabrique du mensonge vient du rapprochement de dossiers qui ne relèvent ni des mêmes produits ni des mêmes disciplines. Le tabac et l'amiante concernent des risques sanitaires connus de longue date, tandis que le dérèglement climatique, le déclin des abeilles. Le bisphénol A et les OGM mettent en jeu des systèmes environnementaux, des expositions diffuses ou des controverses réglementaires plus complexes. Foucard ne prétend pas que tous ces cas sont identiques dans leur état de preuve ou leurs conséquences. Il met plutôt en évidence des répertoires d'actions communs, déplacer la causalité vers des facteurs alternatifs, contester les méthodes défavorables, discréditer les chercheurs lanceurs d'alerte, organiser la publicité autour de résultats isolés et dénoncer comme idéologique toute recherche susceptible de justifier une régulation. Cette comparaison évite de traiter chaque crise comme un accident isolé. Elle fait apparaître une continuité historique entre des méthodes élaborées dans le domaine du tabac et leur réemploi dans d'autres secteurs. Le lecteur comprend aussi pourquoi les sciences de l'environnement deviennent particulièrement exposées. Elles étudient souvent des effets multiples, graduels et difficiles à isoler expérimentalement. Cette complexité réelle fournit un terrain favorable aux campagnes qui confondent incertitudes résiduelles et absence de risque. En dernier lieu, la dégradation du savoir collectif et les conditions d'une expertise crédible, au-delà de la dénonciation de pratiques industrielles. Le livre pose une question institutionnelle: que devient la décision collective lorsque la crédibilité de la science est systématiquement attaquée ou instrumentalisée? Pour Foucard, les conséquences ne se limitent pas à un retard dans la reconnaissance d'un danger particulier. La multiplication de controverses artificielles peut éroder la confiance envers les chercheurs, les agences sanitaires et les institutions chargées de l'évaluation des risques. Cette érosion profite aux acteurs capables de financer durablement expertise, communication et lobbying, tandis que les travaux indépendants disposent souvent de moins de ressources pour être entendus. L'auteur met donc en lumière l'importance des règles de prévention des conflits d'intérêts, de la publicité des données et des méthodes, ainsi que de l'autonomie des organismes d'évaluation. Il rappelle également qu'une politique de précaution ne demande pas une omniscience scientifique. Elle consiste à agir de manière proportionnée lorsque les indices disponibles signalent un dommage plausible et grave. Cette position ne dispense pas de poursuivre la recherche ni de discuter les incertitudes. Elle refuse simplement que l'exigence de connaissances parfaites devienne un prétexte pour ne rien faire. Le livre fournit ainsi une grille de lecture civique pour distinguer un débat scientifique réel d'une controverse entretenue afin de neutraliser l'action publique. En conclusion, La fabrique du mensonge s'adresse aux lecteurs qui souhaitent comprendre les rapports entre science, santé publique, environnement et pouvoir économique. Il sera particulièrement utile aux étudiants en journalisme, sciences sociales, santé environnementale ou politique publique, mais aussi aux scientifiques et aux citoyens confrontés à des discours d'expertise contradictoires. Son bénéfice pratique ne consiste pas à fournir une règle simple permettant de classer instantanément une étude comme fiable ou trompeuse. Il apprend plutôt à poser de meilleures questions qui financent la recherche: quelles hypothèses sont mises en avant, comment une incertitude est-elle formulée, quels acteurs organisent la visibilité médiatique et quelles décisions sont retardées par la controverse. Sur le plan intellectuel, l'ouvrage défend une idée exigeante de la science. Elle demeure indispensable précisément parce qu'elle est vulnérable à des usages sociaux et économiques qui doivent être rendus visibles. Par rapport à des essais généraux sur la désinformation, il se distingue par son ancrage dans les controverses scientifiques et environnementales, ainsi que par sa reconstitution des mécanismes institutionnels de l'influence. Foucard ne présente pas seulement des erreurs de communication ou des mensonges isolés. Il décrit une organisation du doute capable de façonner les priorités de recherche, les débats publics et les réponses réglementaires. Cette articulation entre histoire des controverses, enquête journalistique et réflexion sur l'expertise donne au livre une portée durable. Si vous souhaitez soutenir Stéphane Foucard, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.